Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Vendredi 9 décembre, mesdames, messieurs, bienvenue au Forum de la Presse. Au menu de ce forum, donc, nous vous proposons de parler du procès Sanogo, le procès qui a été ajourné jusqu'en 2017. Les syndicats d'enseignants étaient en grève de 5 jours. Cette grève prend normalement fin aujourd'hui. Ils n'excluent toutefois pas de réitérer la semaine prochaine. Les Maliens se font expulser d'Algérie. Nous en dirons quelques mots dans cette émission. Enfin, l'attaque sur la prison de Niono, nous en parlerons également au cours de cette émission. Avec nous sur ce plateau, Youba Konaté du Zénith Ballet, Hamidou El Hadj Touré de Mali Média et Mamadou Fofana de l'Indépendant. Je suis Ousmane Diadé Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Salim Diouara.
Le Grand Dialogue.
C'est de report en report finalement. Le procès Sanogo a été renvoyé en 2017. Certaines sources parlent de février 2017, tandis que d'autres maintiennent que l'on ne peut tout simplement donner une date. Les défenseurs des droits de l'homme se targuent toutefois d'avoir pu traduire les accusés à la justice. Nous allons écouter Imrana Kiloumaïga dans cet élément qui fait le point sur le procès.
Avant son renvoi à la prochaine session de la cour d'assises, le procès a connu 4 ajournements. Durant les audiences, la défense a multiplié les exceptions de procédure. Toutes les réserves ont été rejetées, excepté celle de la régularité des expertises ADN sur les restes des victimes mises en cause pour défaut de serment des experts, comme l'exige la loi. Cette décision et les conclusions auxquelles parviendra cette expertise, saluée par le procureur général, s'imposeront selon lui à toutes les parties comme une base probante et le fondement d'une meilleure suite pour un procès équitable. Les avocats de la défense, quant à eux, ont appelé les autorités à faire en sorte que cette expertise soit effectuée dans le meilleur délai. Le procureur général leur a répondu dit en affirmant que cette affaire sera jugée avant la fin du premier trimestre 2017. Pour la défense, enfin, le renvoi est logique. Selon ses représentants, le dossier n'était pas en état d'être jugé du fait de telles irrégularités énormes. D'ici la reprise des débats, les avocats des prévenus vont réitérer leur demande de libération provisoire considérant que leurs clients font l'objet de détentions arbitraires.
Alors, Mamadou Fofana de l'Indépendant, est-ce qu'il fallait s'attendre justement à un report de ce procès? On va dire un ajournement, hein, pas un report.
Bon. Vous savez, dans tous les cas, d'abord, bonsoir à tous. Ce procès-là, je crois qu'il y avait beaucoup d'incertitudes, d'abord,
les premières heures, justement.
Bon, dès qu'on a su que ce procès va se tenir, donc les gens étaient, certains étaient sceptiques. Bon, in fine, ça a eu lieu. Bon, moi, je crois que c'était quand même ce que les gens voulaient d'abord. Mais que ça allait, tout le procès allait se, on allait, le jugement allait être effectif, allait se faire. Bon, je crois qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Bon, donc, mais déjà, je crois que le problème, c'était d'amener ces personnes, je sais pas, parce que c'est quand même, c'est détenu, disons comme ça, parce que là, c'est présumé, disons, bon, en termes judiciaires, donc je crois qu'il fallait les amener devant la justice. Et que je crois que c'est un véritable défi quand même qui se posait à tout le peuple malien.
Alors c'est déjà une victoire de la justice malienne qu'on arrive à traduire et des défenseurs des droits humains qui ont cherché en vain ce procès-là.
Bon, je crois franchement, je ne vais pas parler de victoire ou de défaite, non. Parce qu'en réalité, un état du droit, un état démocratique, il faut que les choses se passent dans les règles de l'art. Des gens ont été inculpés et donc ils doivent être jugés. Donc moi, je crois que c'est pas question de victoire ou de défaite. En réalité, dans tous les cas, un État démocratique doit marcher comme ça. Donc je pense que c'est juste, c'est bon tant pour ceux qui sont détenus que pour la partie civile. Parce qu'en réalité, il faut que la justice soit, et il faut que la vérité soit connue de tous les Maliens et que justice soit rendue. Je crois que c'est ça quand même le premier pas. Et on s'en félicite.
Merci Youba Konaté du Zénith Ballet. Alors, on voit quand même que c'est le 4e procès du genre au Mali. Hein. Depuis, on a déjà vu les 2 premiers procès sous la dictature de Moussa Traoré. On a vu le procès d'Ibi Diawara. Ensuite, on a vu le procès de Tchékouro Bagayoko. Et maintenant, le général Moussa qui a été jugé. Et maintenant, d'autres officiers. Est-ce que ça montre justement ses capacités justement du Mali à pouvoir juger ses prévenus?
Ok, merci Ousmane de me permettre une fois de plus de donner mon point de vue par rapport à déjà à cette première question. Moi, je pense que c'est effectivement les procès que tu viens de citer sont aussi des procès qui se sont déroulés dans notre pays. Mais celui-ci est un peu différent en ce sens que déjà, à mon entendement, c'est la première fois vraiment que des gens qui avaient été détenus par, n'est-ce pas, la force publique de l'époque, notamment les camps de Sanogo, ils avaient été détenus, montrés à la télévision, et que ces gens par la suite disparaissent. Et, donc, et après qu'on retrouve des corps qui semblent être leurs corps dans des charniers, vous
alors
combinez avec moi qui.
On parle de défaut de serment des experts hein, qui ont conduit ces analyses-là, justement, sur ces corps retrouvés à Diago.
Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Et les avocats de la défense étaient dans leur rôle de demander s'il y a défaut de serment, de les notifier que la cour en prenne, comment dirais-je, acte. Et justement, c'est ce qui a été fait. Les gens déjà crient au complot et autres. Moi, je ne pense
mais,
pas.
Mais
je
les,
crois
raisons,
pas
les raisons avancées vous paraissent sensées.
Tout à fait de droit. Tout à fait de droit. Parce que si, effectivement, la loi prévoit que les gens qui doivent faire ces expertises-là doivent être des agents assermentés et qui ne le sont pas, c'est tout à fait. Les avocats de la défense sont dans leur rôle de réclamer à ce qu'on corrige cette injustice-là et de penser que le report est tout à fait justifié et c'est le droit, ce n'est pas vraiment de gaieté de cœur ou du moins pour faire plaisir à certains. Je pense que c'est vraiment le droit.
Merci. Alors, Hamidou El Hadj Touré de Mali Média, dites-moi, est-ce que justement vous êtes d'accord avec ces arguments-là hein, du tribunal? On parle de défaut de serment des experts, des arguments ramenés d'abord par la défense.
Du tribunal ou de la défense. Moi, je pense qu'il y a vraiment des irrégularités et je pense que d'habitude, des procès de cette envergure se passent de cette façon. Les avocats de la défense, comme ceux de la partie civile ou bien ceux qui se sont constitués partie civile, ont quand même un regard fort sur le déroulement de l'instruction de l'affaire. Et je pense réellement c'est très justifié lorsque on retrouve vraiment que ceux qui ont mené l'expertise n'étaient pas assermentés, que le procès soit ajourné. Je pense que c'est vraiment je dirais pas légal, mais c'est vraiment dans la forme. Seulement, ce dont je ne me réjouis pas, c'est que autant beaucoup avaient vraiment, il y avait de l'euphorie. Des gens pensaient que c'était le procès de l'année, et nombre de citoyens pensaient que de but en blanc, on va aller vers un verdict. Tel n'est pas le cas. Un procès de cette envergure ne peut pas se dérouler dans un bref délai comme ça.
Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à des révélations au cours de ce procès?
Bien sûr, parce que des témoins qui ont été cités n'avaient pas comparu. Et je pense aussi qu'il y a vraiment des irrégularités dans l'instruction de l'affaire. Et je pense bien en écoutant le procureur près de la cour d'appel, on se rend compte qu'il y a vraiment des irrégularités et qu'ils ont pris conscience de cela et qu'ils sont en train vraiment de revenir à la charge et vraiment gérer toute cette panoplie d'irrégularités pour que nous soyons vraiment dans un procès digne du nom.
Merci. Mamadou Fofana de l'Indépendant, est-ce que vous avez l'impression justement qu'on est allé à ce procès sans être bien prêt?
Non, effectivement, on n'était pas prêt. Et c'est ça ma grande surprise. Parce qu'en réalité, on a dit ils ont fait 3 ans. 3 ans pour se rendre compte que ceux qui ont fait l'expertise n'était pas assermentée. D'ailleurs, qui l'a fait? Il y a un trouble à ce niveau. On dit qu'on avait confié aux Américains, qu'on a sous-traité, excusez-moi de l'expression, aux Portugais, etc. Bon, franchement, moi je crois que ça c'est une légèreté. Vraiment, il doit y avoir des sanctions à ce niveau. Parce qu'en réalité, c'est impardonnable qu'on puisse, franchement, qu'on puisse attendre 3 ans. Et franchement, pour un élément essentiel. Parce qu'en réalité, on a exhumé les gens, on a fait les expertises. Gabriel Touré, les corps étaient là-bas, des spécialistes sont venus, et les corps étaient à l'hôpital Gabriel Touré.
Pensez-vous que c'est une incompétence de la cour à ce niveau-là?
Pas seulement de la cour, de tout le système. Pas seulement de la cour. Parce que l'expertise, ça fait entrer plein d'agents, plein de personnes, plein de métiers dans le jeu. Donc les juristes, les médecins légistes, plein de trucs, plein de structures. Si on se rend compte après 3 ans, ah non, franchement, moi je crois que des têtes doivent tomber à ce niveau. Ah oui, oui.
En fait, moi je pense que... Oui, je pense que les gens ont été pris de court. Le délai était arrivé. Il fallait vraiment que ces gens comparaissent devant un tribunal avant que le délai n'expire. Et je pense que tout le monde a été pris de court. Ça, c'est à mon humble avis. Tout le monde a été pris de court de telle sorte que, et je suis entièrement d'accord avec Fofana, que le dossier a été traité avec une légèreté sans parler, sincèrement.
Yuba Konaté,
c'est peut-être toujours le poids politique qui explique cela. En fait, les gens, même les professionnels, on peut être désolé de le dire, mais jusqu'à un certain niveau, les gens se demandaient est-ce que le procès aura lieu, est-ce qu'il n'aura pas lieu. Ah oui, ça c'est une réalité. Donc, je ne sais pas d'expliquer peut-être les légèretés, sinon effectivement il y a des légèretés.
Est-ce que c'est pas un moyen, justement, les Maliens n'ont pas vraiment confiance en leur justice, est-ce que c'est pas un bon moyen pour la justice de redorer son blason?
Effectivement.
Amener à bien ce projet.
Effectivement, et je pense que en tout cas si on veut la stabilité dans ce pays, je pense que la justice malienne n'a même pas le choix. En fait, le dossier est tellement sensible que c'est des gens qui ont été montrés à la télévision. Les gens ont vu leurs parents, leurs pères, leurs mères à la télévision. Après, ces gens-là disparaissent. Au bout d'un bon bout de temps et des recherches, c'est des gens qui sont retrouvés dans des charniers. Donc, je pense que le dossier est assez sensible parce que les gens font la confusion. Certains pensent qu'on est en train de juger l'ex-capitaine parce qu'il a fait un coup d'État. Non, le coup d'État, il faut le rappeler aux gens, a été amnistié. Même si l'amnistie, ce débat-là va revenir parce qu'il est contestable. C'était sous pression, les gens, tout le monde le sait. Ce n'est pas le procès du coup d'État, mais c'est le procès des gens qui ont été montrés à la télévision, des gens qui étaient détenus, prisonniers des Kati.
D'ailleurs, l'acte d'accusation fait part de séquestration et complicité d'assassinat.
Et après, on les retrouve dans les charniers. Bon, en attendant que ça se reconfirme, tout le monde sait. C'est ça le problème. Je voudrais aussi, Ousmane, si tu le permets, de signaler quelque chose. Et tu as parlé de l'hégémonie par rapport à la défense. Déjà, ça posait un problème déjà. Parce que quand vous avez remarqué les clashs qu'il y a eu déjà entre Maître Karamoko et le capitaine, vous constatez que l'hégémonie qu'on voudrait faire dans la défense, ça ne va pas marcher. Parce que les gens ne sont pas au même niveau de responsabilité. Quand vous prenez Aya et le groupe de Aya, ils sont 10. Et les commanditaires, ils sont 6. Les deux généraux, Yamoussa et Dembélé, ils sont 2. C'est eux qui ont essayé de maquiller le crime après coup. Donc, les gens, ils ne sont pas au même niveau de responsabilité. Donc, ça va être très difficile pour eux d'adopter une stratégie de défense commune. Et c'est ce que Aya voudrait. C'est-à-dire qu'obliger les autres à aller dans cette logique de stratégie commune pour se défendre ensemble, ça va être extrêmement compliqué parce que les gens, les uns et les autres, ne sont pas au même niveau de responsabilité.
Merci. Monsieur Fofana de l'Indépendant, dites-moi, finalement, cet ajournement profite à qui? À la défense ou à l'accusation?
Bon, moi je crois, réellement, moi je crois que ça ne profite à personne. Parce qu'en réalité, notre peuple a quête de vérité dans cette affaire. D'abord, le pouvoir ne pourra jamais dire que vraiment la justice est indépendante. C'est un procès politique. Qu'on le veuille ou pas, il y a des aspects politiques très forts.
Non, attends, quand on a posé cette question-là justement aux différents protagonistes, ils nous ont tous répondu que c'est un procès pour meurtre. Non, assassinat, complicité d'assassinat, séquestration.
Je suis d'accord avec vous.
La dimension.
Mais il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique sérieux.
Alors, c'est quoi ce
enjeu? Parce que d'abord, le capitaine, il a dit, je suis chef d'État, ancien chef d'État. Je crois qu'il y a eu des tirs même par rapport à ça. Mais est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'est pas ancien chef d'État? Qui peut le dire? Qui peut dire aussi qu'il est ancien chef d'État? La question se pose. Il est général. 4 étoiles, n'est-ce pas? Il est ancien chef d'État. N'est-ce pas?
Alors, ancien chef d'État, la question reste posée. Permettez-moi de me faire débatteur pendant 30 secondes, hein, je m'en excuse. Mais le coup de, on a jamais parlé de coup d'État au niveau de l'Assemblée. On a parlé d'un putsch qu'on a amnistié. Donc, logiquement, et le président de la République de l'époque, Amadou Toumani Touré, a officiellement démissionné.
Moi, je pense que
juridiquement, il est où le coup d'État?
Parce que, qu'est-ce qui s'est passé?
Est-ce qu'il est ancien chef d'État? Moi, je pose la question.
Justement,
techniquement, non.
À ce niveau, je pense que c'est très clair.
Alors, je vous propose de prendre quelques secondes de pause et on revient continuer.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de rester connecté au studio Tamani. Vous suivez le forum de la presse Hamidou El Hadj Touré de Mali Média. Alors, il y a une confusion justement par rapport au statut d'ancien chef d'État ou non, hein?
Bon, je pense que le débat n'est pas à ce niveau.
Yamoussa, il n'y a pas de confusion.
Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau de la tenue du procès, c'est-à-dire la forme et le fond. Maintenant, nous sommes sur la forme. On a un procès qui se tient à cette période-là, un procès de haut niveau, puisque pour moi, le débat n'est pas à ce niveau, s'il était chef d'État ou bien s'il était général ou si Yamoussa était ministre de la Défense. Moi, je pense que c'est des gens qui ont commis des forfaits ou bien qui sont présumés coupables de quelque chose et qui sont devant une cour qui doit les juger. Ça, c'est en ce qui est maintenant. Ce que j'ai déploré, c'est la façon dont les choses ont été conduites avec légèreté, ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la communication autour de ce procès. Parce que je pense qu'on est en train de faire de son mieux pour édifier les citoyens maliens sur ce qui est en train de se dérouler au premier plan. Et deuxièmement, je loue beaucoup le procureur de la République parce que chaque fois qu'il passe à la télévision, il essaie quand même de donner le maximum d'informations pour situer les citoyens et pour aussi redorer le blason de la justice malienne qui a perdu son crédit. Donc moi je pense que c'est là où il y a le débat aujourd'hui, que le citoyen soit informé de ce qui est en train de se passer et comment ça va se passer dans l'avenir.
Yuba Konaté, dernière question justement sur ce volet. Est-ce qu'un procès à la CPI, à la haine, n'était pas envisageable pour Sanogo?
Oui, c'était envisageable, mais du moment où les autorités maliennes ont dit qu'ils ont compétence à juger ces actes-là, moi je pense qu'il n'y a peut-être pas lieu de... Mais toujours est-il que la CPI a les yeux rivés sur le Mali, si jamais les choses tournaient autrement, peut-être qu'elle peut se relancer et se remettre dans la cour. Mais je voudrais préciser... elle peut s'auto-saisir. Je voudrais préciser une chose, c'est-à-dire que la question de... par rapport à la compétence de la Cour a été tranchée, c'est très clair. Donc, Aya, ancien président, quoi, n'est-ce pas, Yamoussa était ministre de la Défense à l'époque où il se mettait en accusation. La question est tranchée. La Cour, a dit qu'elle est compétente pour juger les deux affaires et je pense que les éléments de droit ont été évoqués et montrés sur la table comme quoi cette Cour d'assises-là est compétente pour pouvoir juger ces accusés-là. Et donc, ce débat-là n'est plus d'actualité parce qu'ils vont être effectivement jugés par la Cour d'assises. La question est tranchée.
Merci. Nous allons passer à un autre sujet. Il s'agit de la grève des syndicats de l'école. L'on voit depuis 1991 des grèves qui minent le monde scolaire et universitaire au Mali. Hier, c'était les étudiants. Aujourd'hui, ce sont les syndicats de travailleurs dans le milieu scolaire et estudiantin. Le ministère, quant à lui, a plus de 30% du budget de l'État, soit plus de 300 milliards par an, mais il parle quand même de manque de moyens. Alors, Monsieur Mamadou Fofana de l'Indépendant, on a vu que les syndicats dénonce entre autres justement le très bas salaire et demande une harmonisation avec certains pays de la sous-région. Est-ce qu'ils ont raison à ce niveau-là de demander cela?
Merci beaucoup. Et je ne dirais pas que les syndicats n'ont pas raison. Ça, c'est quand même une incursion. Je ne vais pas me permettre. Mais en réalité, quand on regarde sur un plan national, un plan général, bon, les gens veulent harmoniser le salaire sur ceux de la sous-région. Moi, je crois que ça, quand même, ça, c'est complexe. Très complexe. Parce qu'en réalité, les Maliens, c'est vrai, nous avons toujours dénoncer le bas salaire du Malien. Bon, maintenant, moi, je crois qu'il faut un effort. Il faut que les Maliens travaillent davantage, que nos autorités vraiment fassent un effort pour que l'argent qui va dans la corruption, l'argent qui quitte les caisses de l'État de manière illégale, qu'on puisse vraiment rassembler tout ça, éviter cela, et puis pour que l'État, le budget du Mali, notre économie soit beaucoup plus forte, plus compétitive, afin que nous ayons des ressources pour vraiment essayer de soulager le travailleur malien. Ça ne concerne pas seulement les anciens. Je crois que tous les fonctionnaires, même ceux qui sont dans le secteur privé, les journalistes, hein, nous tous, je crois que hein, chacun veut une revalorisation de sa, de ses conditions, de travail, conditions de salaire, etc. Donc moi, je crois que c'est un problème de fond. Parce que vous savez, c'est pas seulement les anciens. C'était les médecins il n'y a pas longtemps. C'était le personnel de la santé, de l'action sociale, la promotion de la femme. Bon, il y avait 3-4 ministères vraiment qui... Le personnel de 4 ministères qui était parti en grève illimitée d'ailleurs. Donc vous vous rappelez, hein, et avec tout ce que cela a dû provoquer au niveau des hôpitaux.
Comme... Est-ce que vous pensez que l'État a les moyens de subvenir justement
d'accepter certaines de ses revendications? Je crois que l'État n'a pas les moyens. En réalité, l'État n'a pas les moyens, mais seulement, c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut qu'on travaille davantage. Moi, je crois que je ne veux pas dire que ce n'est pas légitime. Tout ce que le syndicat dit, c'est réellement c'est légitime. Mais l'harmonisation, c'est-à-dire prendre ce que, si moi, je suis journaliste, je vais avoir le salaire quand même, ce que, un salaire ivoirien ou un salaire, je ne sais pas, sénégalais, c'est très complexe. Même si c'est cela que nous souhaitons. Mais je crois que, franchement, il faut un dialogue social. Moi, je pense, un dialogue social. Et je pense que, moi, bon, mon rôle, ce n'est pas d'inviter les syndicats à ce dialogue. Mais je crois que l'État doit fournir des efforts pour qu'il y ait la confiance, la compréhension, qu'on puisse vraiment se mettre à table, que la confiance soit là. Parce qu'il s'agit de l'avenir de l'école malienne, mais aussi donc de l'avenir même de la nation malienne. Mais je suis tout à fait d'accord que les anciens aussi, il faut améliorer les conditions. C'est-à-dire une négociation, je ne dis pas qu'il faut tout avoir tout de suite. Mais je crois que l'État doit faire aussi un pas afin de satisfaire
certaines revendications. Merci M. Fofana. Youba Konaté du Zénith Balé, quand on voit un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana qui ont des pays qui ont beaucoup plus de moyens que le Mali, est-ce qu'il est censé de demander une harmonisation des salaires par rapport justement à la sous-région?
Non, moi je pense que ça c'est des arguments de lutte, ça c'est des arguments syndicaux que les syndicats utilisent pour pouvoir avoir quand même une certaine amélioration de leurs conditions de vie. Et je pense que les syndicats enseignants sont carrément dans leur rôle, parce qu'en face, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit non, tout ce que vous revendiquez est légitime, tout ce que vous revendiquez c'est normal, mais vous êtes trop. Moi, je pense que c'est trop simple pour un État de dire, d'avoir comme seul argument, on ne satisfait pas vos revendications parce que vous êtes trop nombreux. Il va falloir à un moment donné que l'État se donne les moyens de pouvoir, n'est-ce pas, répondre, ne serait-ce qu'en partie, aux revendications. Parce que vous ne pouvez pas dire à ces gens-là tous les jours, ce que vous revendiquez est normal.
Et le syndicat n'exclut pas d'aller en grève encore à partir de la semaine prochaine.
Voilà, moi je pense qu'il y a des efforts à faire, surtout quand vous prenez encore, mon grand frère a fait allusion à ça tout de suite, toute la déperdition des ressources que nous avons dans des secteurs carrément inutiles que nous avons.
Le
secteur de l'enseignement, la crucialité du secteur de l'éducation aussi, aujourd'hui, qui peut le contester?
Justement, plus de 30% du budget l'État, alors c'est quand même énorme. Quand on voit que l'année même fait 365 jours et qu'il y a plus de 300 milliards.
Il faut aller sur, comment dirais-je, une appréciation globale de tout ça, vraiment. Parce que dire comme ça 30%, c'est un peu simpliste, quoi. C'est une appréciation globale qu'il faut avoir de cette budgétisation là. Et je pense qu'il y a des efforts à faire et tout le monde sait qu'on peut faire des efforts pour améliorer les conditions de vie des enseignants, parce que ce secteur-là est un secteur qui est plus qu'important pour la survie et pour l'avenir de notre pays. Donc il va falloir, et nous avons aujourd'hui tous les déficits que nous avons dans ce domaine-là et tout ce que cela crée comme préjudice pour sur les ressources humaines, sur la rentabilité, sur l'efficacité de l'administration, de façon globale, la production même du pays. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'État se donne les moyens pour pouvoir faire des efforts dans ce sens-là. Et que c'est sûr que les enseignants ne demandent pas tout. Et ça ne va pas être censé de demander, de vouloir tout. Mais si on peut faire des efforts pour, n'est-ce pas, parce que certains salaires d'enseignants sont très, très bas, hein. Au niveau du fondamental, certains sont souvent à moins de 50 000. C'est dérisoire.
Merci, Youba Konaté. Hamidou El Hadj Touré de Mali Média. Quand on voit que toutes ces grèves incessantes et les élèves, les professeurs Est-ce que c'est pas de nature justement à empirer le très bas niveau des étudiants maliens quand on sait que le Mali n'est pas compétitif sur le marché de l'emploi au Mali et d'ailleurs dans la sous-région, hein, on n'a pas le niveau.
Bon, là, je suis pas d'accord avec cette allégation. Nous sommes bel et bien compétitifs. Peut-être la nouvelle génération n'est pas compétitive. Sinon,
c'est justement cette nouvelle génération qui est la génération active de maintenant.
Voilà, nous sommes aussi actifs. Il y a deux points. Hein. Demander l'harmonisation des salaires avec ceux ou celles de la sous-région, je pense que c'est très légitime. Je viens de la Côte d'Ivoire il y a seulement 3 jours. Et là-bas aussi, les enseignants sont en grève. Ils veulent aussi une amélioration de leurs conditions de vie. Et je pense que c'est un état de fait qui est là aujourd'hui. L'État a bel et bien les moyens. L'État peut subvenir ou bien donner ne fût-ce que les conditions minimum, pas, disons minimales, pas seulement aux enseignants, mais à tous les fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, on est en train de distribuer des logements sociaux. Je pense qu'il faut commencer par les fonctionnaires. Il faut commencer par ses propres fils d'abord. Faire une politique en sorte que le fonctionnaire malien soit mis dans les conditions minimales quand même de bien servir ce pays. Ça, c'est le premier aspect. Secondo, je dirais que le sens de la citoyenneté manque à tout un chacun sur toute la ligne. C'est vrai, nous réclamons des conditions, c'est vrai, nous réclamons beaucoup de choses, mais sachons que l'avenir de nos enfants est mis en jeu. Et il n'y a pas deux jours, l'ensemble des parents d'élèves, l'ensemble des associations de parents d'élèves ont invité ces syndicats à un dialogue, ils ont carrément boudé. Et je pense que ce n'est pas de la citoyenneté. Il faut répondre au rendez-vous. Dites ce que vous avez à dire.
Dernière question sur ce volet. Comment sauver justement l'école malienne aujourd'hui, hein?
Sauver l'école malienne, je pense que le fiston a eu à le dire. Il faut vraiment un dialogue social aujourd'hui. Et il faut vraiment qu'à plus haut niveau, qu'il y ait un nouvel élan. Et ce nouvel élan peut aujourd'hui sauver pas seulement l'éducation, pas seulement l'enseignement, mais le Mali de ses grèves et de ses va-t-en-guerre qui n'en finissent pas. Il faut vraiment un nouvel élan des autorités.
Merci. Nous allons à présent parler de l'expulsion des Maliens d'Alger, pas que des Maliens d'ailleurs, des Africains d'Alger. Une vague d'arrestation des migrants de plusieurs nationalités en Algérie, notamment des Maliens qui devaient être expulsés vers leur pays d'origine. Les autorités nigériennes ont fermé leurs frontières avec l'Algérie. Près de 400 Maliens ont été libérés hier vers 16h, arrêtés dans les différentes villes de l'Algérie et conduits à Tamanrasset, où ils devaient être expulsés via le Niger. Nos compatriotes, après avoir retrouvé la liberté, sont partis au consulat du Mali dans la ville. Certains d'entre eux, qui n'ont pas de papier, ont exprimé le souhait de retourner au pays dignement après qu'ils aient subi des maltraitances des forces de l'ordre algériennes. Alors, Mamadou Fofana de l'Indépendant, est-ce que vous comprenez justement que l'on soit victime de ce genre de choses en Algérie?
Bon,
avec toute cette histoire qu'on a à l'Algérie.
Bon. Vous savez, je vais dire la vérité. Ma vérité, c'est que le problème, d'abord, au lieu de s'en prendre à l'Algérie, il faut s'en prendre d'abord au Mali même, aux autorités maliennes. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, chaque pays, tu travailles pour ton pays. Tu travailles pour développer ton pays, tu travailles, les autorités, nous devons travailler pour assurer pour les bases, de bases solides pour notre pays, sur tous les plans, sur le plan économique. Aujourd'hui, on parle des anciens, on parle des élèves, Non, aujourd'hui, l'avenir, les jeunes n'ont pas d'avenir. Donc, ils sont obligés de fuir le pays, d'aller vraiment braver.
Est-ce que le Mali a une forte communauté en Algérie?
Non, mais pas seulement. L'Algérie, c'est un passage. Les gens, j'ai même un cousin qui est là-bas, qui appelle chaque fois, qui dit « envoyez-moi de l'argent ». Non, c'est un passage. Les gens bravent. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vraiment, cette histoire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois que... Mais le monde a changé. Pour des problèmes de sécurité, les gens se replient sur eux-mêmes. Donc, il faut que l'État malien, face à ce brouhaha, face à cette misère de nos compatriotes, mais les autorités, j'ai pas entendu une réaction des autorités. Cela est très, très irresponsable.
Donc, c'est par les médias internationaux que nous apprenons, il y a ça, il y a ça. Il y a eu un forum en Algérie l'autre jour. Ah, il y avait plein de Maliens, des trucs. C'est, moi, je crois que il y a, même si, parce que c'est la misère qui fait fuir, mais il y a combien d'Algériens en France? Il y en a plein. Mais est-ce qu'ils subissent le même sort? Moi, je crois que si Dieu a fait que vous avez plus de moins que d'autres, il y a la solidarité obligatoirement. La manière dont nos compatriotes et d'autres Africains sont traités en Algérie, franchement, pour moi, c'est indigne. On a vu les migrants qui quittent la Syrie, autres là, qui viennent en Europe. Mais quand même, ça crée un débat. Et les gens les acceptent. Mais c'est la même situation. Des gens, j'ai appris certaines choses en Algérie, tu es obligé même de se cacher. Les gens, les Noirs sont obligés de se cacher. Donc il y a deux choses.
On va observer quelques secondes de pause, parce que c'est l'heure de la pause, et on revient continuer cette émission.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Merci de rester connecté donc au forum de la presse Studio Tamani. Youba Konaté du Zénith Balé, plus de 1400 migrants subsahariens, dont des Maliens, expulsés. Enfin, pas expulsés, puisque le Niger a fermé sa frontière, ce qui a empêché l'expulsion à travers le Niger, mais qui ont été molestés. Quand on voit toute cette histoire que l'on partage avec l'Algérie, qu'elle date de l'indépendance ou qu'elle soit contemporaine avec l'accord, qu'on appelle d'ailleurs l'accord de paix d'Alger, est-ce que vous comprenez que des Maliens subissent de tels traitements en Algérie?
Personne, aucun être humain ne peut le comprendre. C'est certainement que l'Algérie, en tant qu'État souverain, elle aussi avec ses réalités internes. C'est dire qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une situation de difficulté dans un pays, les gens pensent que le bouc émissaire tout trouvé, c'est l'étranger qui est là. Ça, on peut le comprendre. Mais le traitement inhumain qu'on inflige aux gens, on ne peut pas le comprendre. Puisque, et surtout encore un pays quand même avec lequel nous avons de très bons rapports sur tous les plans. Et je vous rappelle que le Mali est l'un des rares pays à avoir contribué très noblement à l'indépendance de l'Algérie. Et ça, c'est encore, il n'y a qu'une cinquantaine d'années. Donc les Algériens ne peuvent pas, n'est-ce pas, traiter les Maliens du simple fait qu'ils sont des Noirs de certains supplices. C'est vraiment inacceptable. Alors, cela ne donne aucune dérogation aussi aux siens. De partir dans des pays sans vraiment dans des situations d'illégalité. Ça aussi, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on dise aux gens vraiment de rester dans le pays ou alors de voyager dans des conditions avec des régularités.
Fofana l'a dit tout à l'heure, aucune réaction officielle, en tout cas des autorités maliennes.
On ne le comprend pas. En tant qu'État souverain, on ne le comprend pas. Mais moi, je pense que je le mets au compte de la réelle politique. C'est-à-dire que l'autorité malienne qui va sortir aujourd'hui, il va dire quoi? Il va être entre le marteau et l'enclume. Si jamais tu te prononces sur cette question aujourd'hui, que ce soit le Premier ministre, une autorité, ça va être très compliqué parce que si tu dis quelque chose qui dérange les nationaux, l'opinion ne va pas accepter. Et de l'autre côté, tu ne peux pas glisser du côté de l'Algérie, ça va. Donc je pense que c'est un peu compliqué pour les autorités. Et la solution est de trouver, c'est le mutisme.
Merci. Hamidou El Hadj Touré de Mali Média, vous avez quelque peu parcouru la sous-région. Quel intérêt pourrait avoir l'Algérie justement à agir de la sorte?
Agir de la sorte, ce n'est pas un intérêt qui pousse à faire ça, mais c'est un ras-le-bol qui pousse à faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le ras-le-bol est constaté et l'Algérie a pris des mesures idoines ou bien des mesures qu'elle pense idoines par face à cette invasion des subsahariens. Et je ne sais pas trop.
Est-ce que justement, c'est quand on parle d'Union africaine en 2016 et qu'un pays africain, justement, se comporte de la sorte. Je ne parle pas que d'Algérie. On a vu les Maliens expulsés du Gabon, on a vu les Maliens expulsés d'Angola, Manu Militari parfois, et dans des situations vraiment pas très agréables. Libye aussi.
Le dimanche passé matin, à la frontière Mali-Côte d'Ivoire, la police ivoirienne m'a brandi un document dont beaucoup de Maliens ignorent l'existence. Il s'agit d'un document qui leur a été envoyé par le ministère de la Sécurité disant que tout Malien, il est interdit l'accès à la Côte d'Ivoire à tout Malien ne détenant pas une pièce d'identité sécurisée.
ni non.
Mais ce qui est compréhensible, hein, on parle de pièces d'identité voilà. sécurisées.
Moi, j'ai normal, vu combien ça. De Maliens ont été débarqués dans combien de cas parce qu'ils détenaient la carte d'identité nationale du Mali. C'est important.
Parce qu'elle n'est pas sécurisée.
Parce qu'elle n'est pas sécurisée. Parce qu'elle n'est pas biométrique. Et là, je pense que le pays doit communiquer au maximum sur cet état de fait. Attention, si vous devez voyager, parce qu'ils ont même fait une alternative. Lorsque vous n'avez pas cette pièce sécuritaire, rendez-vous au poste de police ou bien au commissariat de police pour avoir soit un laissez-passer ou un sauf-conduit. Et je pense que le pays doit communiquer en ce sens pour au moins aider les citoyens maliens à se mouvoir. Et moi, je pense que même si au Mali, aujourd'hui, il y a eu une invasion par rapport à quoi que ce soit, on a vu à l'intérieur du Mali dans les zones aurifères. Mais des gens ont été expulsés de ces sites aurifères. Un autre pays d'une souveraineté se sent vraiment envahi par des subsahariens, c'est normal que ces pays prennent des dispositions, vraiment. Mais aller jusqu'à molester ces personnes, aller jusqu'à atteindre un certain niveau d'agressivité physique, ça je suis contre.
Merci. On a 9 minutes pour aborder le dernier sujet, l'attaque de la prison de Niono. Après la prison de Koutoukale au Niger où des djihadistes ont été libérés, c'est la prison de Banamba qui a été attaquée. C'est maintenant le tour de la prison de Niono qui a été la cible d'attaque le 6 décembre dernier. Bilan, 94 prisonniers évadés, 2 gardiens de prison blessés. Alors, Mamadou Fofana de l'Indépendant, est-ce que les prisons sont devenues des nouvelles cibles hein, quand on regarde Banamba il n'y a pas longtemps et maintenant Niono.
Oui, bon, moi, la question que je me suis posée après cette attaque est de savoir combien de gardiens y avait-il là-bas.
Deux.
Combien de gardiens de prison.
Au moment de l'attaque,
parce qu'on a dit deux blessés.
Deux.
Et bon, deux ont été blessés, les autres. Il y avait combien?
Voilà, il n'y avait que deux gardiens bon, pour voilà, 94 voilà, prisonniers. Voilà, voilà. J'ai annoncé 94 prisonniers évadés, mais en fait, il n'y a pas eu. Les 94 ne se sont pas évadés. Il y en a un ou deux qui sont restés.
Non. Moi, ma question.
Qui ont choisi de rester.
Non. Vraiment, moi, ma question.
Et qui ont d'ailleurs contribué à sauver.
Franchement,
la vie
moi, ma question,
gardiens.
C'est la sécurité même des prisons. Parce qu'en réalité, pour moi, c'est envoyer les gens, je ne sais pas, au charbon.
Mais quand on voit Wadou Sène qui s'est échappé déjà de la prison, de la maison d'arrêt de Bamako, c'est quand même de manière très spectaculaire.
Bon, Wadou Sène,
prison
bon,
de pas... Bamako.
Mais non, attendez, mais c'est la même chose. La situation n'a pas changé. Parce que le jour où Wadou Sène a commis son forfait, j'étais là, je suis venu aussitôt. Et chaque jour, je passe devant cette maison, la maison centrale d'arrêt. Vous savez, je ne sais pas si c'est pas notre propre peut-être, mais le problème de sécurité, nous rigolons avec la sécurité, nous jouons avec la sécurité. Des personnes même, de ceux qui sont chargés.
Mais justement, est-ce que ce n'est pas un nouveau mode de fonctionnement, justement, de ces groupes-là qui attaquent quand on voit Banamba où on a cassé la prison pour embarquer.
Mais nous savons, nous devons être préparés à cela. On ne peut pas aller une prison où il y a même des djihadistes, on va pas faire garder ça par deux personnes. Non, qui sont même là à la porte. Et regardez même la maison centrale d'arrêt de Bamako, les gardes qui sont à la porte. Mais c'est rigolo. Excusez-moi l'expression. C'est moi, je crois qu'il faut qu'on prenne, qu'on sache que le pays là, les terroristes, tout le monde, ils sont devenus beaucoup plus hardis. Bon, maintenant, il faut des mesures de sécurité beaucoup plus fortes, beaucoup plus robustes. Donc, petit...
Yuba Konaté, quand on voit qu'il y a quand même deux gardes pour plus de 90 détenus, est-ce qu'il n'y a pas un manque de moyens criant justement au niveau des gardiens de prison? Et les deux gardes, ils auraient tiré jusqu'à épuiser leurs munitions. Donc il y a aussi ce fait qu'il y a un manque aussi d'équipement idoine pour faire face à certains types d'attaques.
Moi je pense qu'il y a un manque de tout. C'est les gens, c'est ce qu'on a reproché ici. On fait comme si nous sommes dans un pays normal, comme si on vit dans un pays normal. C'est ce qui est incompréhensible. On fait comme si nous vivons dans un pays normal. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Nous sommes dans un pays instable où le tiers du pays est occupé par des situations carrément de guerre flagrante. Donc, on ne peut pas continuer à faire comme si
la sécurité qui se transporte un peu dans le centre aussi, quand on voit Koulikoro et Ségou maintenant.
Vraiment, les gens. Et après l'attaque de la prison de Banamba, qui pouvait penser qu'un mois après seulement, on pouvait attaquer une autre prison et comme si de rien n'était. N'est-ce pas? Et que c'est 24 heures après que les renforts arrivent. C'est inadmissible. Et surtout dans une ville comme Niono, quand même,
qui de la dans le, la configuration d'un pays comme le Mali, non, c'est pas une petite ville. Donc ça, vraiment, il y a des choses qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut changer carrément d'approche. Il faut, parce que
et
je
puis, pense il semblerait que 30 millions avaient été, 33 millions avaient été débloqués pour prendre des mesures. Et cet argent, le ministre a dit sur les antennes Nord-Tem, on ne sait pas où est parti cet argent.
Ah, c'est ça, que le ministre de la Sécurité, que disons que le ministre de la Justice garde des Sceaux, hein, qui est en charge de la surveillance pénitentiaire, qu'il se pose cette question devant la télévision, moi, j'étais resté ébahi. Je ne peux pas l'entendre de cette façon. Aujourd'hui, moi, je pense que ce qui s'est passé, il y a vraiment une responsabilité de tout le monde dedans. Parce que moi, je l'ai souvent dit, que le citoyen se sente concerné par la sécurité. Que le citoyen se sente concerné par la sécurité, qu'il ait un maillon essentiel de la sécurité.
Mais aujourd'hui, est-ce que cette attaque ne démontre pas justement une fois de plus une défaillance au niveau de la sécurité?
Pas puisque, de la sécurité, puisqu'on sait, on sait, système Yuvalier, d'information.
On sait, parce qu'on sait qu'il y a une proximité entre Niono et la Mauritanie.
Pour une ville frontalière comme Niono, où des gens peuvent à pied, à dodane ou à moto rejoindre la Mauritanie ou je ne sais où, vraiment, il doit y avoir le maximum d'informateurs, le maximum de sécurité, le maximum de dispositifs. Et je pense que sur tout le territoire national, aujourd'hui, il doit y avoir un dispositif à la hauteur de ce qui est en train de se perpétrer.
Alors, Mamadou Fofana, le quatrième adjoint au maire nous a dit justement que ce n'est absolument pas un problème de personnel militaire à Niono. Et c'est d'ailleurs ce qu'il n'a pas compris. La prison n'est qu'à 8 km de la ville et que les renforts ont tardé à venir sur place. Alors, comment expliquer qu'une ville comme Niono, hein, qui connaît une très forte présence militaire, arrive à être la cible d'une attaque aussi facilement? Bon. Mené par environ 6 hommes à moto. Hein.
Moi, je dis qu'il faut inviter les citoyens à la dénonciation. Il faut inviter citoyens à l'information.
Non. Tu sais, ce que tu dis, c'est facile à dire souvent. Tu sais, il faut le renseignement. Tu sais, tous les grandes puissances, les démocraties sont basées sur du renseignement.
Mais malheureusement.
Non, je sais. Mais avec les modes aussi, le mode vraiment des djihadistes aujourd'hui, c'est le renseignement. Moi, je crois que on n'a pas besoin d'être spécialiste parce qu'on ne peut pas mettre un agent direct chaque chose.
C'est ce que je viens de dire.
On va laisser Yuba exprimer son point de vue.
C'est ce que je viens de dire. Vous dites que c'est facile à dire.
Ce qui se passe au niveau des prisons, c'est la même chose qui se passe dans tous les autres secteurs de notre vie. Les gens font un peu, comment dirais-je, on fait l'impression de ne pas remarquer. Mais c'est ce qui se passe dans les prisons. C'est la même chose. Quand vous partez dans l'éducation, j'ai dit, dans l'armée, c'est la même chose.
Il y a vraiment une légèreté partout.
C'est une légèreté. Il faut que les gens, on arrête de faire de l'approximatif. À un moment, et je ne sais pas.
Il y a finalement à se poser des questions. Quel côté du pays est finalement sécurisé, Yuba? Parce que quand on voit le nord, ça chauffe. Le centre, maintenant, ça chauffe. On a vu le cas vers Sikasso avec les djihadistes dans la fameuse forêt de Fakola. Donc, où est-ce que ça va, finalement?
On n'est pas dans un pays normal. Il faut prendre des dispositions.
On ne peut pas se mettre dans la conception des terroristes pour dire, là, on va frapper. C'est de bonne guerre pour ces gens-là de vouloir frapper n'importe où dans notre pays. Mais qui frappe et qui réussit, c'est ça le problème. Mais si on frappe, n'est pas un problème.
Mais ce qui est désolant.
Voilà. Maintenant, si ces gens-là, les 6 qui ont attaqué Niono la dernière fois, ils étaient tous tués, il n'y avait pas de problème. C'est ça, il faut que la réponse soit à la hauteur.
Alors, dernier mot, Mamadou Fofana, pour cette émission.
Bon, c'est ce que j'ai dit. Franchement, je pense que je disais qu'il faut mettre l'accent sur le renseignement. Et chaque citoyen n'est pas capable de renseigner. Le renseignement, c'est un métier.
Alors, ça demande énormément de moyens, surtout quand on voit.
Mais il faut mettre les moyens aujourd'hui.
Les gens, parfois, quand.
Mais vous savez qu'on est en train de couper tous les budgets pour la sécurité, les budgets des départements ministériels, tout a été charcuté. Chaque trimestre, on les charcute, on dit, on met ça au compte de la sécurité. Bon, moi, je crois que c'est vraiment, on n'a pas le choix, mais je crois que l'État, c'est bon de former les forces armées, mais moi, je crois qu'il faut mettre l'accent sur le volontariat, le renseignement des volontaires.
Toute dernière question, on voit que dans certaines zones du pays, il y a une très forte présence militaire de Barkhane, de la MINUSMA, des FAMA, des groupes armés également. Alors, et qu'on n'arrive toujours pas à sécuriser ces zones-là. Vous comprenez cela? Est-ce qu'il y a un manque de moyens à ce niveau-là?
Mais vous savez, c'est aussi, moi je veux dire clairement les choses, c'est souvent un manque d'autorité. En réalité, c'est ça. Une prison qui est à 8 km d'une ville, il n'y a que deux choses. Vraiment, moi, je crois qu'il y a un manque d'autorité.
Merci beaucoup. Merci. Ceci met donc un terme, mesdames et messieurs, à notre émission du jour. Merci de l'avoir suivie. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Salim Diora était à la mise en œuvre. Nous, on dirait à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadié Touré. Très bon week-end.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry,
Haloud Mandé.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.